Ma trappère, elle ressentait un jus d'orbe, mais puisqu'elle est breu, marlis. Enfin, yiddish. C'est du yiddish. Alors, voilà quel est le problème. Il faut savoir ça. La différenciation des tribus, c'est réel et profond. Et y a, bon, ma famille, donc, a induit un mariage mixte dans le bon sens, mais je vous garantis qu'à travers les enfants et les petits-enfants, ça se retrouve. J'ai des enfants qui sont plutôt sfarad qu'ashkenaz, d'autres l'inverse, et les petits-enfants aussi. C'est très profond, cet atavisme juif. L'hébreu, ça, c'est les patriarches. Mais juif, c'est la tribu. Bon, c'est clair. Okay.
Comment expliquer à l'esprit moderne que la prérogative de l'annulation des vœux et des données
au mari? Bon, vous avez remarqué que je n'ai pas pris ce point d'ici. Bon, alors là, je vais vous en parler un peu, si vous voulez, vous avez posé la question, mais peut-être qu'une autre année, on parlera surtout de cela, sur texte, d'ailleurs. À partir du moment où il y a contrat de mariage, et alors il y a une unité qui apparaît et qui est le couple. Et par conséquent, les vœux, comment dire, engagent le couple comme tel. Et dans la mesure et pour les comportements où c'est le mari qui est le sujet, c'est donc à lui qu'appartient la prérogative de décider s'il va supporter le vœu de sa femme ou pas. Mais je crois qu'en français, on a deviné un peu le problème, on parle des vœux de belle-mère. Ça peut être un vœu de belle-mère, vous savez pas ce que c'est? Bon, alors j'en parle pas. Enfin, imaginez un mari qui est heureux de rentrer le Shabbat après la prière pour manger une tafina cachère, et sa femme lui dit « Ah non, moi je fais partie des gladiateurs, je mange glatte. » c'est un vœu. Vous savez ça que c'est un vœu? C'est un éder de manger glatte, vous savez pas? D'ailleurs, ceux qui mangent glatte n'ont pas le droit de changer, à moins de faire « Atarat Nedarim ». Parce que c'est un vœu de manger comme ça. Donc. Et alors, voilà, ça va dans ce sens-là. Il faut voir que derrière l'unité du couple, c'est une chose que la civilisation moderne a perdue. Il y a une entité qui est le couple et qui transcende le mari et la femme. Il y a certains comportements où c'est la femme qui est le sujet, certains comportements où c'est le mari qui est le sujet. Ken?
On ne peut pas le phénomène inverse, c'est la femme qui peut annuler un vœu du mari.
Eh bien, justement, il est possible, à l'achat futuriste, on s'en occupera. Mais vous savez, les femmes n'ont pas besoin d'aller au tribunal pour faire leur mari ce qu'elles veulent. Non, attendez, il y avait monsieur d'abord après.
On connaît l'énorme erreur qu'a fait Yiftach.
Oui.
En faisant le vœu de dès qu'il sortait vainqueur de la guerre,
il sacrifiera sa fille.
Il sacrifiera, ouais. Si l'on veut, si c'est une bête, si c'est une. Enfin, il a fait ce vœu-là.
Il figé.
Sa fille qui est venue en premier vœu, donc il fallait qu'il fasse le vœu de la. Mais on ne sait pas maintenant le. Ce que les rabbinim ont décidé, si vraiment il faut tenir le vœu jusqu'à l'extrémité, ou bien assouplir la.
Bonne question. Vous avez compris la question? Et nous avons dans notre histoire quelque chose d'analogue à Iphigénie. C'est la fille de Jephté. Jephté avait fait une guerre difficile. Pendant le feu de la guerre, il a fait un vœu que s'il gagnait la guerre, il offrirait en sacrifice l'être vivant qui sortirait de sa maison. Qui est sorti de sa maison? Sa fille. Et sa fille a été sacrifiée. Alors monsieur pose la question, est-ce que la tradition prévoit un remède à cette inconséquence? Alors je vais vous dire, c'est en clair d'ailleurs dans le texte, ce qui est arrivé, c'est une question d'orgueil entre le grand prêtre du temps et Jephté. Il fallait que Jephté aille chez le grand prêtre se faire délier du vœu. Et il a dit non, il faut que le grand prêtre vienne chez moi. Le grand prêtre était trop orgueilleux et il n'est pas allé chez Jephté. Et Jephté était pieux. Ben, vous savez, ça arrive très souvent, le président est le rabbin. Qui sait qu'il va aller chez l'autre? Et il arrive que le président soit pieux. Pauvre fille. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Bien. Alors, monsieur.
Est-ce qu'on peut annuler tous les vœux? Par exemple, est-ce qu'on peut annuler tous les vœux? Par exemple, quand on fait un vœu d'accomplir une mitzvah, par exemple, quand on fait un vœu de monter en Israël, est-ce qu'on peut annuler ça?
Alors, je veux dire, faire une mitzvah, c'est pas un vœu, et monter en Israël, c'est pas un vœu. Parce que faire une mitzvah, c'est une mitzvah, et monter en Israël, c'est une mitzvah. C'est pas un vœu. Je vais revenir à la définition que j'ai donnée au début du vœu. Vous avez des consciences qui voudraient faire le bien, mais elles n'y arrivent pas. Alors elle s'impose des règles de discipline, c'est une stratégie humaine pour aider l'âme. Elle s'impose des règles de discipline qui les aident à. Et alors, la Torah admet cela comme thérapeutique. Et elle considère que quelqu'un qui est malade doit être soigné. Et par conséquent, prendre un médicament, c'est toléré par la Torah. Alors qu'un médicament, ça fait du mal à quelqu'un qui est en bonne santé. Donc, en principe, l'être de médicament est nocif. Mais voilà, pour le malade, ça l'aide. Alors, on permet. Je ne sais pas si c'est clair. C'est la même chose. Le vœu, c'est nocif. Je vais donner une autre catégorie qui est claire. La humra. Vous savez ce que c'est la humra? C'est quand la Torah dit 4, je dis moi, je veux 5. Okay. Vous avez un peu de Torah? Oui, combien? Mettez-moi le double. C'est ça la humra. Okay. Et les vrais rabbins, j'ai dit. Les vrais rabbins, c'est les rabbins. Les rabbins n'aiment pas les humrot. Il y a une formule talmudique qui est très importante, s'appelle Kocha de Hetera. Où on sait qu'un rabbin est fort dans la Torah, c'est quand il est capable de permettre. Parce qu'interdire, c'est n'importe quel chamash qui peut interdire. C'est clair. Vous avez compris le problème. Or, malheureusement, on est dans un stade où les rabbins se targuent d'interdire. Je ne sais plus comment on disait en mai 68 à la Sorbonne, c'est interdit d'interdire. Et alors, c'est ça le problème. Il y a des gens qui sont obligés de s'imposer des règles supplémentaires de Chumrot pour tenir le coup. Alors, il faut les respecter et les plaindre d'ailleurs. Ils sont en convalescence. Oui. Moi, je vois énormément de Baal et Tshuva qui donnent cet exemple que le Talmud désigne. Ils sont en convalescence de Tshuva. Mais un homme bien portant n'a pas à imiter un convalescent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Au contraire, ça lui interdit. Vous savez, ces juifs qui se déguisent en juifs pour se persuader qu'ils sont juifs, c'est qu'il y a un doute, peut-être qu'ils ne sont pas. Et il y a certains pour qui c'est un demi-doute, ça s'appelle chassidoute, je m'appelle ça. Ça va dans le même sens. Mais c'est vrai, quelqu'un qui se déguise en curé pour faire juif. Vous n'avez pas remarqué ça, ça me rappelle un enseignement du Rav Kook. Il disait, être religieux, je traduis en français, bien sûr, lui parle en hébreu, parce que religieux en hébreu... Être religieux, c'est normal à un juif. Un juif en bonne santé est religieux. Il faut qu'il soit pas très en ordre pour être pas religieux. Un goy, c'est l'inverse. Un goy normal n'est pas religieux. Et quand il devient religieux, c'est qu'il est malade. Alors, il se déguise en sorcier pour dire « Voyez-moi, je suis religieux. » Un goy en bonne santé n'est pas religieux. Sinon, il est païen. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je viens de dire, c'est important. Je ne veux pas, c'est une blague. Okay. Très souvent, on compare Moïse et Socrate. Mais le pauvre Socrate, il n'y a pas à le comparer à Moïse, il n'a pas eu la révélation. Pourquoi on en veut à Socrate de ne pas être Moïse? Il n'a pas été Moïse, il est Socrate. Vous avez compris le problème? Et alors, l'erreur des erreurs, c'est d'arriver à se persuader que Moïse était aussi Socrate. Mais non, Moïse n'a rien à voir avec Socrate. Moïse c'est Moïse, Socrate c'est Socrate. C'est pas du tout déshonorant d'être goy. C'est cohérent et c'est respectable. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Chacun est né là où il est né. Et comme disait Virgile, l'aîné, c'est un juif. Il a écrit l'Énéide. En tout cas, pour revenir au sujet, il faut bien savoir ça, c'est que les vœux, comme les chumrot, c'est pour aider. Ériger ça en règle, quelque chose qui ne tourne pas rond. Imaginez un convalescent qui impose, parce qu'il a des invités à table, que les invités doivent avaler toutes les pilules que... c'est ça ce qu'ils nous ont avec les balais de Chouva. Ils ont des pilules qu'ils n'arrivent même pas à adorer. Enfin, ils les adorent, les pilules. Bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on arrive à Midian. Attends, oui, une minute que je vois l'heure, que je calcule. On a une demi-heure. Hein. Je vous écoute.
Monsieur a posé la question pour la femme mariée.
Oui.
Mais la paracha parle de la femme non mariée.
Ah, ça c'est vis-à-vis de son père. Oui,
il y a aussi. Son père et pas son père et sa mère ou sa mère.
Parce que déjà la mère, c'est le problème de la femme et du mari. Mais la relation de la fille au père, il y a aussi une entité comme j'ai dit tout à l'heure, entre l'unité du couple, il y a aussi une entité de l'unité de la famille. Vous voyez, ces questions sont induites parce que nous vivons dans des familles qui ne sont plus des familles. Nous n'avons plus le diagnostic de référence à l'identité dont la Torah parle en parlant d'une famille. Vous savez, c'est un problème très grave. La Torah l'a diagnostiqué. Le dernier verset de la prophétie définit quelle sera la fonction d'Eliyahu Navi, d'Élie le prophète. Veshi levavot albanim, velebanim alavota. Pourquoi la Torah a vu que le problème de la fin des temps, nous sommes en ce temps-là, mais le problème central, c'est le rapport entre les pères et les fils. La charge d'Eliyahu Hanavi, c'est de réconcilier les pères et les fils, et les fils et les pères. Sinon, il y a une catastrophe, prévoit la Torah. Or, nous sommes dans un temps de civilisation où il est évident que nous sommes occupés à ce problème. Le problème de la communication d'une façon générale, et surtout de la communication entre père et fils. Je suis en train d'étudier d'ailleurs cela. Il y a des ouvrages de grands psychiatres en général, psychanalystes en majorité, qui expliquent cela. C'est que les violences des hommes entre eux viennent de ce qu'ils ont, en tant qu'enfants, subi de leurs parents. Et c'est très bien expliqué, d'ailleurs. Il y a un problème, c'est que les familles ne sont plus des familles. Il y a une coupure entre les pères et les fils. Et il faut prendre les choses dans le sens strict. Les familles sont devenues des hôtels-restaurants, et encore, on ne mange pas très bien. Okay, c'est un hôtel plus un restaurant. Et on fait semblant de se parler. Un peu comme je disais tout à l'heure, on fait du bruit avec la bouche. Et les médecins, surtout les psychologues, les psychiatres, savent la tempête et les abîmes qu'il y a dans le cœur de ceux qui se disent « papa, mon fils ». Il faut reconnaître la vérité. Si on se réfère à des familles qui sont des familles, il y a vraiment des entités, des unités entre la femme et son mari, et entre les enfants et les parents. Et c'est à différents niveaux. Donc je vous remercie de votre question, ça me permet cette précision. Bien. Un jour, on étudiera ça dans l'histoire des patriarches, la figure de Isaac, qui est une figure exceptionnellement méconnue dans les études juives. Personne ne sait parler de Isaac. Tout le monde parle beaucoup d'Abraham, beaucoup de Jacob. Isaac, j'ai entendu même chez des Bahouri et Shiva, des inepties à propos de Isaac. Bon. Je referme la parenthèse. Pour dire que Isaac représente ce problème. Isaac, c'est le fils du père et le père du fils. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Alors, un jour, si vous voulez, on étudiera cela. Pourquoi la figure de Isaac a une telle importance pour le Talmud? Je me souviens des enseignements du Rav Kook. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Nous sommes habitués à savoir qu'Abraham, qui est le commencement, est très grand. Jacob, qui est l'aboutissement, est très grand. Mais on apprendra que le plus grand des trois, c'est Isaac. Et ça vous étonne, ok? Eh bien, rappelez-moi une fois qu'on parle de ça. Bien, il y a encore une place. Venez vous asseoir. Restez pas debout. Okay. Alors, il nous reste un petit moment. Vous avez une place là. Il nous reste un petit moment pour parler de la question de Midian. Alors, prenez le verset. Je vais dire tout de suite, après la paracha des vœux. C'est le chapitre 31, verset 1. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas si vous croyez à la transmission de pensée, mais je n'ai pas triché, hein. J'avais marqué ce verset. Voilà. Tu le dois à une Anisette. une Anisette hongroise. Alors, prenez le verset. Vaïdaber Hachem, il mange les morts. Vous y êtes? Ah, je n'ai pas dit 31, verset 1.
345
dans ce livre. En bas. Vous y êtes? Je peux lire? Alors, juste après cela, il y a une consigne particulière qui va rester une mitzvah pour Israël pour la fin des temps, pour la suite des temps. Une minute que je retrouve un verset complémentaire. Une minute. Non, je ne retrouve pas le verset, mais ça fait rien, il me reviendra. c'est que Moïse reçoit l'ordre de prendre la tête de l'armée d'Israël, alors que habituellement c'est Josué qui prend la tête de l'armée. Par exemple, dans la guerre contre Amalek, la Torah précise, c'est pas Moïse qui est à la tête de l'armée, c'est Josué. Là, c'est Moïse directement qui va recevoir l'ordre. Je suppose que c'est ça qui a induit cette question. Mais d'abord, Hachem et Moshe les morts, je lis le verset 2. Nekom, Nikmat, Béni Israël, Meet Amidianim. Ça veut dire, venge la vengeance des enfants d'Israël de la part des Midianites, Achar, Teasef et Lamecha. Ensuite, c'est moi qui ajoute ensuite seulement, Achar, vous avez un Tachal, un Tam. C'est Tipha, pour les Ashkenazim, comme on appelle ce Tam. Le Tam Kassou Achar.
Ah ouais, c'est ça.
Non, en Ashkenaz.
C'est ça,
Tipha. C'est un accent disjonctif, ça veut dire le mot est mis en exergue. Après seulement, Teasef el Amecha, tu t'ajoindras à ton peuple. C'est une expression qui veut dire mourir dans l'hébreu biblique. Vous avez trois expressions, je prends par exemple le verset concernant la mort d'Abraham. Vayivar, il expira, Vayamot, il mourut, Vayasef el Amav, il fut adjoint à son peuple. Je vais expliquer un peu ce verset. C'est important. Je vais vous citer le Ramchal. Le Ramchal est un très grand maître qu'on cite peu souvent parce qu'il est difficile, qui a donné ce verset comme preuve que dans le Mikra, il y a allusion, plus qu'allusion, que ça va de soi, qu'il existe la Rolam Aneshamot. L'au-delà, si vous voulez. Vaïva, il expira. Vayamot, il mourut. Vaïa Sefer Amav, il fut adjoint à son peuple. Alors, j'explique les trois expressions directement en français. Il expira, ça veut dire il a achevé la quantité de vie biologique qu'il avait à vivre, jusqu'au dernier souffle. Il mourut, l'âme s'est séparée du corps. Vayasef el Amav, son âme a rejoint sa famille d'âmes là-haut. Vayasef el Amav, ça ne veut pas dire il a été enterré au cimetière familial. Okay? Ça ne veut pas dire on l'a ajouté aux tombes de son peuple. C'est l'inverse. C'est là que le Ramchal cite cette expression pour dire, c'est la controverse avec les théologiens chrétiens qui prétendaient que dans la Bible hébraïque, il n'y a pas d'allusion à l'au-delà. Il dit, vous ne savez pas lire, lisez le verset. Mais littéralement, ça veut dire, et après, tu seras adjoint à ton peuple. Je vais donc parler de ce problème à ces deux niveaux. Au premier niveau, le Midrash dit à quel point Moïse est fidèle à ce que Dieu lui demande. Parce que grâce à ce verset, il aurait pu devenir éternel. Puisque Dieu lui dit, venge la vengeance d'Israël sur les Midianites et après, tu mourras. C'est pour ça que j'ai dit après seulement. Il aurait pu décider, je fais rien, je reste éternel. C'est clair. Mais on ne croit pas que c'est une blague. Parce que normalement, il y a un grand problème, comment ça fait que Moïse est mort. On cherche, il y a énormément d'hypothèses, chercher à cause de quelle faute. Parce qu'il y a un grand principe, en mita belochet, venisurin beloavon. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas eu de faute. On se demande, mais quelle faute? Il n'y a pas de faute. Apparemment, d'après le récit même, il y avait une faute, que lorsque Dieu lui a demandé de parler au rocher pour donner de l'eau au peuple, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher. Mais je me souviens d'avoir étudié un enseignement de Maïmonide avec le professeur Baruch, il y a très longtemps. Vous avez entendu parler du professeur Baruch. Et le professeur Baruch qui a donné un très bon enseignement là-dessus. Parce que Maïmonide dit que c'était cette faute-là. Parce que le Talmud enseigne d'autre part, celui qui se met en colère, la Shrina le quitte. Et il y a plus que ça dans le Talmud sur la colère, qui est considérée comme une très grave faute. Et voilà, la faute de Moïse, pour laquelle il a été puni, c'est qu'il s'est mis en colère. Et effectivement, le fait que Moïse se soit mis en colère contre les Hébreux, est mis en exergue dans le récit. Okay. Jusque-là, il arrivait, chaque fois qu'il y avait, quelle que soit la faute des Hébreux, à plaider pour eux. Là, il n'a pas plaidé. Il les a même traités de rebelles. Shimona Hamorim. Morim, ça veut dire en français les maîtres et les rebelles. En hébreu, je veux dire, c'est le même sens. Okay. C'est le même mot. Apparemment, ce n'est pas la même racine, mais c'est le même mot. Ça me rappelle une histoire juive que je voudrais vous la raconter, elle vaut la peine. Vous savez qu'il y a dans la prière deux des attributs de Dieu, ça s'appelle Rofe Cholim ou Matir Asurim. On raconte que le fils d'un rabbin, était devenu médecin. Alors son père lui a dit, fais attention, maintenant que tu es refaire au lim, ne sois pas matir issourim. Je reviens au sujet. Ça c'est le genre de folklore juif rabbinique. Je reviens au sujet. Et Maïmonide explique que sa faute, à Moïse, c'était la colère. Et dans la colère, il a frappé le rocher. En disant à Israël, Shimon Amori, écoutez, rebelles, Aminasela Azé, aussi la Chemaim. Est-ce que de ce rocher-là, je vais vous sortir de l'eau? De ce rocher-là, il ne sort pas d'eau. Donc, il faut étudier le contexte pour lui-même. Et alors, le professeur Baruch est intervenu dans cet enseignement une fois, il a dit, non, il y a des saintes colères. Et Moïse a été prise d'une sainte colère. Et donc, la colère d'un saint, ce n'est pas une faute. Il y a des saintes colères. Et, par exemple. Et effectivement, je vous raconterai d'ailleurs une anecdote de ma vie personnelle là-dessus, mais je vais revenir là-dessus. C'est que cette fois-là, Moïse n'a pas prié pour Israël, et c'est là que Dieu lui a dit, c'est Josué qui les fera rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire, passe le relais à Josué, tu n'es plus capable d'être leur chef, parce que tu es capable d'être leur chef pour leur donner la loi, mais pas pour prier pour eux. Alors passe le relais à plus bas. Moïse était trop grand pour le niveau d'Israël à ce temps-là. Il a passé le relais à un Moïse plus bas que lui. C'est clair le problème. Donc je voulais citer justement cet enseignement du professeur Baruch à ce sujet. Mais rappelez-moi pourquoi je vous ai parlé de ça. Et pourquoi j'ai parlé de ça, d'après? Ah oui, oui. C'est notre sujet. Alors je me rappelle, quand j'étais soldat pendant la guerre, et à la première permission que j'ai eue, on est redescendu au front, on a eu une permission, j'étais allé au cinéma. Et au cinéma, il y avait des actualités, et on montrait un film, j'ai oublié le titre du film, mais je me rappelle de cette scène, c'est un officier anglais qui va en permission à Londres, et qui assiste à un bombardement par les V2, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'était, les fusées allemandes, et puis il avait dit une expression qui m'est restée dans la mémoire, il dit, mon Dieu, garde-moi dans cette colère contre les Allemands. Ça veut dire, au moment de l'événement, il était vraiment, il a dit, garde-moi dans cette colère-là. Mais c'est une sainte colère. Et si on ne met pas en colère le bien contre le mal, on s'en sort pas. Donc, on ne peut pas retenir l'hypothèse que si Moïse est mort, c'est pour la colère. J'ai nuancé pour l'enseignement de Moïse en disant, c'est le fait qu'il n'avait pas pu prier pour Israël. Pas la colère de Mamash, mais la conséquence. Et le Midrash cherche, et il ne trouve pas. Pour quelle faute? C'est un mystère. Finalement, nous avons une réponse. C'est que Moïse a quitté Israël, quand Israël est rentré en Eretz Israël, pour le bien d'Israël, et il y a des versets pour ça. Parce que il y a une clause entre Israël, la Torah et Eretz Israël, c'est que si Israël viole la Torah, alors il n'est plus Israël, il sera détruit. Il rentre en Eretz Israël, on va construire le temple. Mais le temple ne peut être efficace que si Israël est Israël. Si Israël n'est pas Israël, le temple lui-même ne sert à rien et le peuple disparaîtrait. Si Israël n'est plus Israël, il disparaîtrait. Et alors, cet enseignement dit que si Moïse avait construit le temple, il aurait été indestructible et c'est le peuple qui aurait été détruit. Et pour sauver le peuple et que ce soit le temple qui puisse être détruit, Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc c'est la réponse que le Talmud donne à cette question. Et sauf, pourquoi il n'est pas rentré en Eretz Israël? Et donc, il n'est pas mort de la mort habituelle des créatures, et il est remonté au ciel vivant. Il y a trois personnages du Tanakh dont c'est le cas, ne me posez pas de questions dessus, c'est Hanor avant le déluge, Moïse après le déluge, et Elia ou Anavi à la fin des temps. Bon, je reviens au sujet, il y a un Midrash qui raconte la mort de Moïse, si je vous rappelle, c'est dans le Midrash Vezot HaBeracha, sur la dernière paracha de Vezot HaBeracha. Il dit que quand le moment de la mort de Moïse est arrivé, l'ange de la mort est descendu pour prendre son âme, et son âme commence à argumenter, et en comparant sa vie à celle des patriarches, de tous les grands d'Israël, de tous les grands du monde, et en démontrant qu'elle est supérieure, qu'elle n'a fait aucune faute. Alors Dieu se révèle sur les instances de l'ange de la mort qui voulait faire son travail, Dieu se révèle et dit à Moïse, à l'âme de Moïse, tu as fait une faute, tu as tué l'Égyptien. Alors l'âme de Moïse répond, comment? Moi j'ai tué un Égyptien, toi tu les as tués tous. Alors Dieu répond, oui, mais je peux les ressusciter, et toi tu ne peux pas les ressusciter. Alors là il y a deux versions. Mais selon les Sfaradis, Moïse a dit A et il est monté. Selon les Ashkenazim, il a dit O et il est monté. Mais dans tous les cas, c'est au moment de la réponse de Dieu à Moïse, l'âme de Moïse s'est tue. Alors là, c'est un thème extrêmement important de comprendre comment il faut expier le fait que la mort des Égyptiens était nécessaire pour qu'Israël soit sauvé. C'est toute une histoire. C'est encore un autre sujet. Quoi qu'il en soit, je reviens au sujet. Maintenant, un deuxième niveau. C'est le fait que Moïse a un problème avec Midian. Non seulement il a épousé la fille de Jéthro, qui était le grand prêtre de Midian, mais il a eu à un certain moment la tentation de remplacer Israël disqualifié en Égypte à ses yeux à l'époque par Midian. Il y a une espèce de zika entre Moïse et Midian comme un ersatz éventuel d'Israël si Israël échoue. Alors,
son fils Gershom et Midian par la mer.
Non, mais elle s'était convertie. Alors, une fois qu'elle s'est convertie, elle est hébreu. Daval ve'ala, are ou Israël, l'école d'Ava. Israël, c'est un goy converti. L'identité d'Israël, c'est l'humanité devenue juive. Et il ne faut pas oublier ça. Hein? Nous n'avons pas été créés Israël, nous avons été créés Jacob. Et Jacob devient Israël. Alors, c'est un autre sujet, mais on reprendra une autre fois. Et alors, c'est pas parce que c'est le 14 juillet qu'il faut croire qu'on est français. D'ailleurs, et être français, c'est très honorable. D'ailleurs, on a assisté à la prise de la pastille, comme vous savez. En prononciation arabe. En tout cas, pour revenir au sujet des Midianites, il y a un lien entre Moïse et Midian. Et vous savez, si vous voulez, je vais en parler très rapidement sans nous baser sur les versets, parce que l'heure avance. Et je ne voudrais pas commencer un sujet sans le voir vraiment au fond. Alors, ne serait-ce que le thème en général. C'est pour ça que je vous avais demandé d'ailleurs de prendre le livre de Shmuel. Alors prenez le livre de Shmuel. Tu vois, j'avais pensé à peu près tout. Prenez le livre de Shmuel, je veux dire, prenez le chapitre 2. Je vais vous traduire juste un verset pour poser le problème. Mais je n'aurai pas le temps de l'analyser très en détail. Alors, prenez le chapitre 2 de Shmuel, au verset 11. Alors, Syrah, au verset, au chapitre 11. Non, chapitre 2, verset 11. Alors, je lis. Vayi bayamim ahem. Et il arriva en ces jours-là. Et là, Moïse était encore le fils adoptif et l'héritier présomptif du pharaon. Et il était, on l'apprend par la Midrash, sa prérogative en tant que pharaon bis, il était le chef des camps de concentration des Hébreux. C'était le capot en chef. Et alors, le texte dit, Vaïgdal Moshe, Moïse grandit, Vaïetse et l'Echab, il sortit vers ses frères. La traduction directe, parce qu'on connaît la suite, serait de lire comme si Moïse est allé vers les Hébreux, parce qu'on sait que ses frères étaient les Hébreux. Mais jusque-là, on ne sait pas qui il considère comme ses frères. Il a décidé de choisir entre les Hébreux ou les Égyptiens. Les Égyptiens auraient pu être ses frères, comme les Hébreux auraient pu être ses frères. Puisqu'on a parlé du 14 juillet, beaucoup de Juifs, quand ils vivaient en France, et bien sûr, leur demander qui sont tes frères, serait dans le même dilemme, les Français ou les Juifs. Et nous allons voir d'ailleurs que c'est la même situation qui va s'imposer à Moïse. Vayar Bessilotam, et il vit leur fardeau, Vayar Ishmitzri Makeish Evri, Me'echav. Et il vit un homme égyptien frapper un homme hébreu de ses frères. C'est à la fin du verset qu'on apprend que Moïse décide que c'est celui qui est frappé qui est son frère. Mais jusqu'à la fin du verset, le choix aurait pu être que ses frères, c'est les Égyptiens. Je veux dire, à quoi je pense? Il y a énormément de Juifs assimilés au temps de l'occupation qui sont redevenus Juifs à cause du sort des Juifs. C'est exactement la même scène. Moïse a choisi les Hébreux et pas les Égyptiens pour une raison d'ordre moral. Du point de vue de la civilisation, eh bien, ils faisaient partie des deux civilisations. Même qu'on appelle ça la double appartenance. Je ne sais pas si on compte ça comme ça. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ça. On oublie que Moïse, notre Moïse, le prophète d'Israël, a d'abord été pendant 40 ans un hébreu assimilé à l'Égypte. Dans sa vie privée, il était hébreu. Seule sa mère et lui le savaient. Et à Aaron, son frère, qui attendait le moment au ghetto de Goshen de rencontrer Moïse. Mais, et Myriam, bien sûr, qui était dans la Tmouna. Mais tout le monde le prend pour un Égyptien. Exactement comme énormément d'époques, les grands hommes d'Israël qui ont été les grands hommes des nations et qui ont fonctionné comme des goyim, d'Israélis, pour ne parler que de lui. Mais énormément que nous avons connus. On aurait demandé à Léon Blum, alors décide qui tu es. Il aurait dit, je décide pas, je suis français et je suis juif. Léon Blum n'est pas sorti de ce verset. Moïse s'en est sorti. Je ne sais pas si vous venez. Je me rappelle de Mendes France. Mendes, c'est portugais. Pour être sûr qu'il est français, il s'appelle Mendes France. Et quand on lui a demandé, alors qu'est-ce que tu es, il était bien embêté. Je me souviens que quand Ben Gurion a envoyé à tous les sages d'Israël son questionnaire sur qui est juif, Mendes a répondu, c'est l'histoire originelle, parce qu'on la raconte sur beaucoup de personnages. Je suis d'abord socialiste, ensuite français et ensuite juif. Et Ben Gurion a dit, c'est pas grave, malais, nous on lit de l'autre côté. C'est historique, ça, d'ailleurs. Bon, alors en tout cas, voilà quel est le problème. C'est que il assiste à une scène où il voit l'homme égyptien, la personne égyptienne, l'identité égyptienne frappant l'homme hébreu, Meïchav. Alors il est du côté des Hébreux. C'est un choix qui a fait basculer l'histoire du monde. Au lieu que l'avenir de la civilisation passe par l'Égypte, elle passe par Israël. C'est Moïse qui a décidé. Et le verset suivant, Vaïfen Kovako, Vaïar Kéenish, il se tourna ça et là, et il vit qu'il n'y avait personne. Vaïar est à Mitzri, il frappe à l'Égyptien, Vaïtmenehu Bachol, et il l'enfouit dans les sables. Et la civilisation égyptienne a été enfouie dans les sables, comme vous le savez. Hein? Et en hébreu, Chol, ça veut dire aussi profane. Ça veut dire, c'est devenu fini. Ça aurait pu être une humanité dont l'origine de civilisation aurait été l'Égypte des pharaons. Eh bien, ça a été autre chose. Ça, c'est le choix de Moïse. Et alors, on se demande, mais de quoi il a peur? Il est tout puissant en Égypte. Bah, il fait le Kovaku. Il a peur, pas d'avoir tué un Égyptien, vous vous rappelez du Midrash que j'ai cité tout à l'heure, il a peur qu'on apprenne finalement qu'il avait choisi pour Israël contre l'Égypte, qu'il a tué l'Égypte, pas un Égyptien. Le lendemain, verset 13, « Vayetse, Bayom Hacheni, le lendemain, Veine, Shnei Anashim, Ivrim, et voici deux hommes hébreux, Nitzim, qui se disputent. Chasse et Meretz. » Vayomer la Rachar. Alors il dit au Rachar, lequel des deux? Les deux, bien sûr. Lama takerer. Pourquoi frapperais-tu ton prochain? Mais tout de suite, ce qu'on entend comme harmonique derrière, Lama takerer, c'est ce Moïse qui va dévoiler. Ve'avta le'acha kamocha, zekler galut Torah, dit Rabbi Akiva. C'est clair, vous voyez la scène qui se produit là. Et alors, révolte de l'Hébreu en question, pour qui tu te prends? Tu n'es que le pharaon, qu'est-ce que tu te crois, le rabbin ou... Et alors, Moïse dit, Moïse a eu peur, et il dit, Vayoma, Achen Oda Adavar. Ainsi, la chose est connue. Déjà, les Hébreux savent que je suis de leur côté. Ça va se savoir au palais. Et alors, au palais, on apprend, verset 15, et le pharaon cherche à mettre Moïse à mort. Alors, Vaibrach, fin du verset 15, Vaibrach Moshe Mipeneparo, Moïse s'enfuit de devant le pharaon, Vaïechev Beret Midian, il s'installa dans le pays de Midian, Vaïechev à la Be'er, il s'assit auprès du puits. C'était un verset très raccourci, on voit qu'il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Rachid explique. Il s'assit auprès du puits, il a appris de son ancêtre Jacob, qui auprès du puits a rencontré Rachel, et de leur mariage est venu Israël. Alors c'est très clair, ça veut dire il attend avec qui je vais fonder un autre Israël. Il attend la fille de Jéthro. Qui était Jéthro? Jéthro était un descendant d'Abraham, qui était le grand prêtre de l'idolâtrie de Midian. Et le Midrash nous enseigne, et je vous dirai d'où il le sait, que Jéthro avait répudié l'idolâtrie, avait été donc mis au banc de la société midianite, et c'est pourquoi, c'est là que le Midrash le sait, ce sont ses filles qui s'occupent des troupeaux. Le Talmud demande, il n'a pas de berger, Jéthro, qu'il envoie ses filles s'occuper des troupeaux. Il dit parce qu'il était au banc de la société de Midian. Pourquoi? Il avait fait comme Abraham. Il avait répudié l'idolâtrie. C'était un Abraham disponible pour la révélation de vérité. Et alors Moïse est déçu de l'Égypte, mais il est aussi déçu d'Israël, d'Égypte. Alors il va à Midian il sait où il va, et il attend de fonder un ersatz d'Israël qui serait... Alors vous voyez pourquoi la Torah va épingler, si j'ose dire, ce cordon ombilical entre Moïse et Midian qu'il faut rompre. Il n'y a que lui qui peut le rompre. Avant de mourir, il faut qu'il règle les comptes avec Midian. Sinon, ça va peser sur Israël. Midian serait un Israël possible. Et je vais vous dire, quand j'ai commencé à comprendre la profondeur de cet enseignement-là, toutes les explications que vous avez données sont dans le Shlach. C'est le Shlach qui explique ça, à sa manière d'ailleurs. C'est au moment de la génération des nouveaux philosophes en France. Vous savez, tous ces juifs qui ont été déçus du marxisme, déçus de la situation occidentale, mais qui ne sont pas rentrés dans la communauté juive. Je ne citerai pas de nom. Vous savez, ils sont une dizaine, plus ou moins brillants, il y en a de très brillants d'ailleurs, qui se sont démarxisés, mais qui prétendent, j'en citerai un, parce que lui c'est le roi, c'est Bernard-Henri Lévy. Il prétend enseigner la vérité de la Bible contre les juifs. Vous avez remarqué ça? Ils sont assimilés, non pas pour quitter Israël, mais au nom des vraies valeurs d'Israël que la communauté juive et l'État d'Israël auraient bafoué. Voilà, j'ai schématisé, mais c'est le profil des nouveaux philosophes juifs. Vous les connaissez. Et c'est vraiment... Il y en a un que j'arrive pas à avaler, c'est Finkielkraut, mais les autres sont sympathiques. Hein. Mais j'espère que même Finkielkraut, ça s'arrangerait un jour. Parce que quelqu'un qui est intelligent est Charles Smochala. Et les juifs, en général... bref... Alors, surtout quand ils sont et nouveaux et philosophes. Là, ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, c'est la première fois dans notre histoire, et c'est un tofara, comme on dit, un phénomène nouveau. Des juifs qui se sont assimilés, non pas parce qu'ils veulent quitter les valeurs juives, mais au nom des valeurs juives, ils s'assimilent. Vous voyez la scène, imaginez ces nouveaux philosophes déçus du marxisme, la situation occidentale comme ils l'ont aimé. Et ils arrivent au consistoire et ils voient deux consistoriaux se battre. Okay. Vous savez ce qui se passe au consistoire en France? Vous n'êtes pas au courant. Okay. La bagarre. Okay. Chaque président a son vice. Président. alors imaginez, un des nouveaux philosophes quittant la Sorbonne marxiste et rentrant à la rue de la Victoire. Eh bien, il s'enfuit. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Il va à Midian. Alors vous les voyez tous, je cherchais à Midian. Tu seras mon Midian, je serai ton Moïse. Okay. C'est ça. Alors ça m'a rassuré. Je me suis dit, si c'est arrivé à Moïse, ils sont sauvables, ceux-là aussi. Alors on les attend. Okay. Mais vous voyez à peu près le problème. Alors vous avez compris pourquoi la Torah dit, toi Moïse, tu dois rompre avec Midian. D'autant plus que, par la suite, il risquait d'y avoir une catastrophe, une dénaturation de l'identité d'Israël avec les filles de Moab à la suite de la coalition de Midian. Vous vous rappelez de cela? Bon, alors, un jour, vous étudierez ça. Vous suivrez Midian depuis le temps des patriarches jusqu'à la fin du Tanakh. Il y a une ligne Midian qui s'entremêle avec l'Israël. Pourquoi j'ai... Ah, j'ai pas fait exprès. C'était immédiat. qui s'entremêle avec l'histoire d'Israël, il faut la dénouer pour que Moïse puisse rentrer en Israël. Oui, le texte est très fort. On te considérera comme Moïse d'Israël que si tu rompes avec Midian.
Okay. Est-ce que c'est pas Jéthro qui a conseillé à Moïse d'établir une hiérarchie que lui ne reste pas juge de tout? Et
absolument.
Tout. Donc il a reçu de Midian.
Absolument. De Jéthro.
De Jéthro.
Oui. Mais il y avait... C'est-à-dire, au point de vue sagesse, il a reçu Jéthro. Mais au point de vue de la nation d'Israël, il a failli remplacer la nation d'Israël par un Midian qui aurait été... Vous savez, nous avons vécu cela, les intellectuels juifs qui se sont devenus des petits Moïse pour des causes étrangères. Je me rappelle du temps où j'étais président de l'Union des étudiants juifs en France, et alors la mode c'était Che Guevara. Vous ne vous rappelez pas du temps de Guevara? C'était leur gourou. Et puis, vous avez eu le temps des maoïstes. Aujourd'hui, c'est les pro-palestiniens. On se cherche à Midian quelque part. Parce qu'on est déçu de l'Égypte, la civilisation du temps, mais on est aussi déçu de la communauté. Et alors, on n'arrive pas à devenir tout simplement ce qu'on est. C'est la leçon que Dieu donne à Moïse. Il dit, finis avec Midian, et après, tu rejoindras ton peuple. Vous avez vu l'importance de cette question. Donc, bien, eh bien, on se reverra la semaine prochaine. Alors, écoutez.